Tous à la page, RCF Alpes-Provence, Bénédicte Lagier.
Dans Tous à la page sur RCF Alpes-Provence. Bonjour et bienvenue, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour du livre. Et aujourd'hui, vous allez voir un froid glacial va souffler sur ce plateau. Alors, au sens figuré du terme, rassurez-vous, on est toujours très heureux de se retrouver chez RCF. Non, je vous invitais juste à préparer vos doudounes, car avec mes invités, on vous emmène pour un voyage en pleine littérature venue du froid. Une manière bien à nous de célébrer le printemps. Bonjour Élodie Morin, bonjour Priscilla Garino.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans notre émission. C'est la première fois qu'on vous reçoit dans Tous à la page et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors commençons par les présentations d'usage. Élodie, vous tenez la librairie indépendante de Fil en Page à Château Arnoux, Saint-Auban dans les Alpes de Haute-Provence. Librairie que vous avez créée fin 2017.
C'est ça.
Alors un double bravo, hein. L'un pour la librairie elle-même. Merci. Et l'autre pour l'initiative puisque c'était la première librairie de la commune. Hein.
Exact.
Vous êtes épaulée par Priscilla, grande lectrice elle aussi, et toutes les deux vous avez souhaité nous faire partager en binôme une sélection de livres qui vont nous faire voyager du pôle Nord aux Alpes albanaises. Allez, on commence avec vous Élodie Morin, et votre premier coup de cœur, il s'agit d'un roman de Pierre Edos de Bérangère Cournu aux éditions Le Tripode, une immersion chez les Inuits au Groenland à travers le portrait lumineux, solaire même, d'une jeune femme esquimaux.
C'est ça. On est avec une jeune fille au tout début qui s'appelle Uxuralik, qui va être totalement séparée des siens par la banquise qui craque. Donc ses parents, sa famille d'un côté et elle toute seule avec juste un petit groupe de chiens. Et elle va se retrouver dans la grande nuit arctique, dans le froid, sans rien, à devoir essayer de se débrouiller pour survivre. Donc au début, on a tout ce parcours pour la survie. Donc elle va vivre plusieurs péripéties, se greffer à un autre groupe d'humains et de là, continuer à vivre sa vie, donc de jeune fille, puis petit à petit devenir femme et voilà, toutes les étapes un petit peu de sa vie. Donc avec elle, on voyage dans ce Groenland, on voyage dans ces grands froids, dans les grandes nuits arctiques, dans les grands
extrêmes.
Voilà. Et on va découvrir aussi tout un peuple, toute une culture, toute une manière de vivre, de s'organiser, de composer.
Alors c'est ça l'intérêt aussi de ce livre, hein, outre l'histoire de cette jeune femme qui va devenir femme, hein, de cette jeune fille qui va devenir femme, c'est aussi cette immersion dans un peuple qu'on connaît peu, à travers son mode de vie évidemment, ses coutumes, ses traditions, ses superstitions aussi.
C'est ça, là on venait vraiment avec elle, plongé dans un milieu, donc on voit concrètement, d'un point de vue très pragmatique, comment ils vivent, comment ils se nourrissent, comment ils se débrouillent pour survivre au froid, aux grands étés, aux grands hivers, avec un peuple nomade qui est toujours en train de bouger sur les traces, notamment du gibier et des points de nourriture, parce que c'est vraiment ce qui permet de vivre. Et à travers ça, on voit comment ils vivent en petits groupes, qui se regroupent par moments en communautés un petit peu plus importantes, comment ils échangent entre eux. On découvre une société qui est pleine de traditions, très animistes, pleine de superstitions, avec un très très fort aspect chamanique. On voit aussi comment entre eux, la société s'organise, entre voilà, les hommes, les femmes, les rôles de chacun,
comment
les enfants, les ancêtres, etc. Et on découvre beaucoup de superstitions dans la manière dont il faut faire les choses, ne pas faire les choses selon l'état de la vie, de la mort, la saison, enfin selon plein de choses, voilà. Et notamment, on découvre aussi quelque chose qui était extrêmement intéressant, un peuple qui a une tradition très très orale, et notamment, pour passer le temps dans ces grands hivers, dans ces grands moments d'attente, des moments de chant, de parole, etc., mais aussi entre eux pour s'exprimer les choses, pour se communiquer, plutôt que de se battre, des fois, ils vont se faire des espèces de joutes à base de grands chants, poèmes, pour se dire les choses, pour se présenter. S'il y a deux groupes qui se croisent, ils vont se présenter. Chacun va faire un chant sur lui-même pour dire qui il est, d'où il vient, ce qu'il a fait. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose de très, très atypique et assez intéressant.
Des contes aussi, dans ces civilisations ?
Beaucoup de contes.
Beaucoup de contes. voilà, qui nous rapproche de notre tradition montagnarde. Alors, un roman d'aventure empreint de beaucoup de douceur et de spiritualité. Une écriture poétique, me disiez-vous, mais qui se lit facilement, finalement.
C'est ça. C'est quelque chose, on est plongé dedans dès le départ, ça se lit tout seul. On est vraiment porté par l'écriture, mais en même temps, il y a un travail sur l'écriture. À des moments, on a des phases, bah, toutes ces parties où ils vont interagir entre eux sous forme de poèmes, de chants qui sont retranscrits à l'intérieur. Une coupure dans le texte avec des beaux passages, des jolis morceaux, des belles phrases. Et en même temps, bah, ça, c'est pas un frein à la lecture, quoi. C'est vraiment... On est dedans, on suit le personnage, on suit leur culture, on suit leur élan. Et donc, on a la poésie qui se greffe au reste de manière totalement naturelle.
Alors, un joli livre, donc, couronné du prix du roman FNAC 2019, puisqu'il faisait partie de la rentrée littéraire 2019. Et il vient de sortir en poche fin 2020. À noter... que l'édition est augmentée de quelque chose d'intéressant, un cahier de photos.
C'est ça. En fait, à la fin, il y en a toute une petite explication de l'auteur qui justifie comment elle en est venue à écrire ce livre sur cette civilisation, etc. Et c'est joint d'un cahier photo donc, qui va nous faire voyager au Groenland avec tout ce peuple où on les voit un petit peu dans leur quotidien, on voit certains objets... dans le petit cahier, donc ça complète bien la lecture.
On y est. Allez, deuxième ouvrage en jeunesse, cette fois, avec vous, Priscilla Garino. Même si je crois que c'est un coup de cœur commun, hein, me disiez-vous. Grand Blanc d'Adèle Tariel pour les textes et Jérôme Perra pour les illustrations, aux éditions du Père Fouettard. Un album qui emmène les 3-8 ans au pôle Nord, là aussi, à la rencontre d'une maman ours.
À la rencontre d'une maman ours, mais aussi d'une petite fille. Une petite fille qui s'appelle Saski et dont le papa pêcheur va lui donner le goût de cette activité. Et elle est enfin assez grande pour finalement pouvoir partir toute seule sur la banquise et aller pêcher de son côté. Donc comme toute petite fille de cet âge-là, elle est très impatiente
chouette.
De partir. Chouette, exactement. Enfin libre. Et elle part avec son petit seau, avec sa petite canne à pêche. Et sur la banquise, il va y avoir aussi une ours blanche qui, elle, de son côté, est confrontée à quelque chose que nous allons tous connaître dans les années à venir, à savoir le changement climatique et tout ce que ça sous-tend. Donc elle n'arrive plus à trouver à manger, elle n'arrive plus à nourrir ses oursons et elle se laisse un peu dépérir sur la banquise sans savoir trop quoi faire. Et la petite fille de son côté va avancer sur la glace, va trouver un endroit pour s'installer, pour pêcher. Et l'ours de son côté se laisse un peu mourir sans avoir de solution pour continuer. Et soudain, une tempête va prendre la petite fille de court. Elle n'arrive plus à retrouver son chemin, elle n'arrive plus à rentrer chez elle. Elle va être un petit peu perdue dans tout ce blanc. Et on le voit très bien dans les illustrations, c'est juste magnifique. C'est dommage qu'on ne puisse pas les montrer.
Oui. On ne peut en donner que l'avant-goût, malheureusement.
Voilà, exactement. Et l'ours et la petite fille vont se croiser. Et là, cet ours qui meurt de faim et qui voit un petit bout de viande, il faut bien dire ce qui est, va avoir un geste néanmoins extrêmement tendre. Elle va la prendre entre ses pattes, elle va la protéger, elle va lui permettre de survivre à cette tempête... et de rentrer chez elle après. Et la petite fille va lui donner tous ses poissons, va permettre à cette maman ours de se nourrir et de revenir vers ses petits. Et du coup, c'est une très belle histoire avec derrière plein de belles choses aussi à transmettre à nos enfants sur cette idée du climat, sur cette idée de protéger la planète, sur...
Et puis un beau message de solidarité finalement, parce que quelque part, ce livre nous dit qu'on ne doit pas avoir peur de l'autre.
Finalement. C'est exactement ça, de l'autre, même s'il est différent, et d'être aussi dans cette acceptation de la différence, qui là se joue entre l'homme et l'animal, mais qui bien souvent se joue entre l'homme et l'homme. Et donc, il y aurait beaucoup à en dire aussi.
Pour le meilleur et pour le pire. Alors, des illustrations, vous le disiez, magnifiques,
oui.
Dont certaines, c'est suffisamment rare, je trouve, pour être soulignées, à base de papier découpé.
Oui, tout à fait, du collage, donc c'est très évocateur, ça peut être parfois presque un peu géométrique ou déchiré, on a un peu cette sensation-là, mais néanmoins magnifique, et on est sur des couleurs qui restent à la fois vives et pourtant très douces. Non, c'est un vrai travail, et sur le texte et sur le graphisme, c'est un superbe album, en plus dans un format grand, donc les petits peuvent en prendre plein les yeux, mais les parents prendront aussi plaisir à le lire et...
Et plein les mains aussi.
Et plein les mains, exactement.
On fait la pause ? Oui, allez, en musique, ça s'y prête bien. Comme toujours dans Tous à la page, ce sont nos invités qui nous font partager un coup de cœur. Et on ne va pas se réchauffer avec vous, Élodie et Priscilla, puisque vous avez choisi Crystallize, cristallisé en français, de Lindsay Shirling, une ballade aux consonances nordiques, au doux son du violon. On écoute. Retour dans Tous à la page sur RCF Alpes-Provence. Bonjour et bienvenue. Sortez les moufles et les écharpes. On vous emmène pour un voyage en littérature venue du froid avec la sélection coup de cœur de mes deux invités, Élodie Morin et Priscilla Garino, de la librairie de Fil en page à Château-Arnoux-Saint-Auban, dans les Alpes de Haute-Provence. On quitte le Groenland pour atterrir pas bien loin, au Canada, avec un troisième coup de cœur de votre part, Priscilla. En cabané de Gabriel Filto-Chabat aux éditions Le Mot et le Reste. Un roman dans l'air du temps, crise sanitaire incluse, hein, puisqu'il parle de changement de vie, de retour aux sources et de recentrage sur soi, tout en restant réaliste et honnête, me disiez-vous.
Oui, c'est ça. C'est l'histoire de Anouk, une jeune femme, une jeune trentenaire qui a une vie relativement confortable, un bel appartement dans la ville de Québec, un bon poste et qui vit une vie tout à fait traditionnelle en s'achetant des chaussures, en se maquillant, en sortant avec ses amis et qui du jour au lendemain décide de tout plaquer et de vendre ce qu'elle a. Et elle se rend compte qu'avec le prix de son appartement de centre-ville, elle peut s'acheter une cabane, mais surtout un énorme bout de forêt dans une province du Bas-Saint-Laurent qui s'appelle le Kamouraska. Et elle décide d'y vivre, de s'y installer sans eau, sans électricité, sans confort moderne, dans la neige, dans le froid.
Une vie d'ermite, hein.
Une vie d'ermite, mais choisie, finalement. Et pour autant, bien qu'elle ait pleinement choisi cette vie-là, elle se rend vite compte des limites aussi de ce choix. Et de son ressenti par rapport à tout ça, c'est-à-dire qu'elle a froid, elle a faim, elle a peur, l'autre lui manque, la présence des autres êtres humains lui manque, et que finalement, c'est pas si facile que ça de tout plaquer et d'aller sans cabanier, c'est exactement ça, au fin fond des bois. Donc c'est touchant, c'est lucide, par rapport à tout ce qu'on peut essayer de nous vendre sur cette question-là, où tout le monde change de vie très facilement, pif, paf, pouf, et ça pose aucun problème.
Mais ça a l'air facile comme ça, mais en fait, non.
En fait, non. Mm-hmm. Non. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une très belle citation qu'on peut noter. « Mes trois souhaits au génie de la lampe », elle le dit elle-même, « des bûches qui brûlent jusqu'à l'aube ». Une robe de nuit en peau d'ours polaire et Robin des Bois qui cogne à ma porte et qui résume finalement très bien son ressenti par rapport à cette expérience.
Oui, parce que finalement, chaque geste du quotidien, couper du bois, s'approvisionner en eau, dégager les chemins, c'est un geste de survie.
C'est un geste de survie, puis c'est un geste qui lui coûte aussi en énergie. C'est un geste qui la marquera dans son corps puisqu'elle va se blesser à de nombreuses reprises. Et puis, c'est aussi, quand on affronte cette solitude, se retrouver face à soi-même. Et puis, des fois, on n'est pas toujours heureux de ce qu'on peut trouver. Donc, il faut aussi apprendre à se connaître.
Pas toujours facile, ça aussi. Mais...
Voilà.
Alors, un roman de vie dans sa notion de retour à l'essentiel. Et puis, un roman initiatique aussi, parce que finalement, c'est comment apprendre, ou réapprendre peut-être, à se suffire à soi-même, si c'est possible.
Alors elle montre que c'est pas possible, puisque finalement, assez rapidement, on a un homme qui va arriver, qui va sortir de la neige, de la glace.
On dit pas tout,
tout à fait. Mais elle en pose les limites, clairement. Et c'est ce qui est intéressant, peut-être, par rapport à d'autres textes qui le mentionnent pas et qui donnent que le côté très positif de cette expérience. Elle cache rien. Elle nous dira tout.
Bien. Par touche subtile, l'auteur finalement conjugue délicatesse du récit, puis peut-être aussi un peu réflexion écologique. Ça nous interpelle aussi sur ce plan-là, ce livre ?
Tout à fait. En plus, la nature décrite s'y prête complètement, puisque là, on est dans un lieu qui est très préservé. Et on sait que finalement, des lieux préservés, d'ici peu, il n'y en aura plus énormément. Donc oui, ça parle et ça doit parler. Enfin, en tout cas, on l'espère au plus grand nombre.
Donc un bon message, là aussi, sur la nécessité de prendre soin de la planète pour qu'elle puisse prendre soin de nous aussi. On termine cette sélection de livres venus du froid avec vous, Élodie, pour un quatrième coup de cœur, retour dans les Alpes, cette fois, en Albanie précisément, pour un shot d'adrénaline, on peut dire ça. « Six fourmis blanches » de Sandrine Collette aux éditions de Noël. Un roman qui, s'il ne fait pas partie des nouveautés, nous fait grelotter autant de froid que de peur, hein, je crois.
C'est ça, il y a beaucoup de suspense dans ce roman.
En haleine jusqu'au bout, ce serait donc dommage de passer à côté.
On est plongé dans les montagnes alpes-albanaises, dans un endroit qui est encore, malgré la modernité qui arrive, plein de traditions, plein de superstitions. On a cette notion du mal qui habite la montagne, qui rôde, qui frappe un petit peu au hasard et donc dont les populations vont devoir... se protéger. Donc, malgré l'arrivée de la vie moderne, etc., de le monde d'aujourd'hui, on a toujours ce sacrificateur qui, pour les grands événements, est appelé pour sacrifier une bête, pour apaiser le mal, hein, le diable, qui habite les montagnes, qui rôde et qui peut frapper à tout moment. Donc, on a d'un côté cette part-là dans le récit. Donc, c'est voilà, toutes ces superstitions autour de tout ça. Et de l'autre côté, on va avoir un groupe de touristes qui arrivent pour faire le temps d'un petit week-end, une balade dans les montagnes. Donc, eux, ils débarquent notamment de Paris ou d'ailleurs, ils ne se connaissent pas du tout. Et voilà, ils arrivent plein de motivation, plein d'entrain pour voilà, une petite randonnée. Tout va bien se passer, tout est organisé. Donc, ils retrouvent leur guide. Impeccable, on s'en va, la montagne, on est parti pour marcher, sauf que là,
attention,
c'était pas prévu.
C'est pas ça.
Ben voilà, la météo est un peu capricieuse, il y a une tempête qui s'abat. Il devait faire super beau, etc. Non, là, là, il y a une grosse tempête, il se retrouve pris dedans, bloqué, donc à devoir continuer à avancer. Il se retrouve, ils sont en pleine montagne. Hein, donc,
gérer les éléments, ça c'était pas
voilà,
prévu non plus.
Le froid, le brouillard, l'absence de visibilité. Donc, on a la colonne qui va continuer d'avancer pour atteindre le refuge, pour essayer d'appeler les secours, enfin voilà, pour essayer de s'en sortir. Sauf que peut-être que le mal est vraiment là dans les montagnes et les rattrape. On a quelque chose comme ça, d'autres sombres qui se met autour d'eux et petit à petit, voilà, ils vont se faire rattraper par quelque chose. Donc on ne sait pas si c'est le mal des montagnes, si c'est juste le froid, juste quelque chose d'autre, s'il y a une bête qui rôde.
Et de 6 personnages, ils ne vont plus qu'être 5.
Ah, au début, ils partent à 7, parce qu'il y a 6 plus le guide, et puis petit à petit, il y a un accident. Enfin, est-ce que c'est réellement un accident ou pas? Donc, ils en laissent un derrière eux, puis il se passe autre chose, une avalanche, qui est réellement une avalanche ou pas, une bête qui passe, est-ce que c'est réellement une bête? Enfin, voilà.
Une intrigue qui se construit de chapitre en chapitre. Alors, on parlait justement de ces deux récits qui se croisent. Alors, ça, c'est un peu l'originalité du livre, hein, un chapitre sur deux, qui offre finalement deux fils de lecture.
Et puis l'alternance des deux renforce ce sentiment de suspense qui monte, parce que d'un côté on est quand même un peu dans la rationalité avec ces touristes qui n'ont pas, voilà, eux pour eux c'est juste la météo, mais en parallèle on a aussi les chapitres qui s'intercalent avec toutes ces superstitions autour de ce sacrificateur. Donc on voit comment de père en fils depuis des générations ils se transmettent ce métier, cette tâche, ce rôle important pour protéger toutes les populations, avec cette notion de mal qui est dans les montagnes et qu'il faut chasser. Donc en parallèle on a le mal qu'il faut chasser de la montagne, la tempête qui s'abat et tout ce qui se passe autour de ces touristes, et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas réellement quelque chose qui se passe?
Alors, un roman de suspense avec une ambiance oppressante, une tension qui monte et une pression qui se construit. Au cœur du blizzard, vous me disiez, on est transi, glacé jusqu'aux os. C'est vraiment ce qu'on ressent?
Ah, complètement. Mmh. On est pris dedans. Quand la tempête, ça va. Ils sont dans le brouillard. Il y a le froid, il y a la neige, ils n'ont plus rien. Il y a l'avalanche qu'emporte une partie de leurs affaires. Mais on est avec eux, on a froid, on grelotte. On se dit, c'est pas possible. Nous aussi, on veut le refuge, on veut l'atteindre, on veut que les secours arrivent, parce que là, on est pris dedans, on va pas s'en sortir.
Alors, une écriture dynamique qui nous embarque, hein, du début à la fin, on lâche pas.
Complètement. Ouais. Ça, c'est Sandrine Collette, quand on lit un de ses livres, en général, elle a une écriture qui se lit toute seule, et vraiment directement, elle arrive à nous accrocher et elle nous emporte. On lit, on n'arrive pas à lâcher. On veut savoir comment ils vont s'en sortir, quoi.
Alors, on ne dit rien, nous, en tout cas. Élodie Morin, Priscilla Garino, notre émission se termine. Merci beaucoup pour votre sélection. Hein, de quoi vraiment fêter l'arrivée du printemps. Hein, après tous ces récits, les pieds dans la neige. Alors, quelques mots avant de nous quitter sur votre librairie de fil en page. En tant que librairie généraliste, vous proposez tout type d'ouvrages, avec une prédilection toutefois pour la littérature, bien sûr, mais aussi la science-fiction, la fantasy, les polars, les BD, sans oublier la jeunesse et les mangas. Compléter si j'oublie quelque chose, c'est ça?
Globalement, c'est à peu près ça. C'est ce qu'on a essayé de faire dans notre sélection. On a choisi 4 ouvrages de 4 types différents pour montrer aussi la diversité qu'on propose.
La librairie est ouverte du mardi au samedi en continu de 9h30 à 19h, 18h en période de couvre-feu. À noter par ailleurs que De Fil en Page fait partie de l'association Libraire du Sud, qui permet entre autres de pouvoir commander ses livres via une plateforme dédiée. hop.libraire.com. Enfin, pour ne rien louper de votre actualité, alors réduite en ce moment évidemment en ce qui concerne les manifestations, hein, pour autant il reste quand même les sorties littéraires, les coups de cœur, etc. Un site internet www.defilenpage.fr. une newsletter abonnement depuis le site, une page Facebook et un compte Insta. Alors attention, hein, le pseudo, on le mentionne, Gus le libraire, du nom du petit hérisson amateur de livres jeunesse, mascotte de la librairie, c'est ça?
C'est ça, la librairie, on n'est pas deux, en fait, on est trois. On a Gustave Eriksson, donc petit hérisson qui nous assiste au quotidien et participe à animer la librairie, donc il partage ses coups de cœur, ses petits livres, ses aventures aussi, donc il a son compte Instagram.
Alors merci à Gus le libraire. Merci encore Élodie Morin et Priscilla Garino. Bon retour dans les Alpes de Haute-Provence.
Merci.
Merci à vous.
Merci et revenez nous voir quand vous voulez hein, pour d'autres sélections, on vous accueille avec plaisir. Quant à nous, on se retrouve vendredi prochain, bien sûr, même lieu RCF Alpes-Provence, même heure 19h10. Pour un nouveau Tous à la page. D'ici là, prenez soin de vous. On ne vous le répétera jamais assez. Et bien sûr, belle lecture.